La première.
Flashback sur La première.
Jacques Baudouin, Claude Delacroix.
C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Place de Brouckère, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brouckère, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il était militaire, elle était fonctionnaire. Il pensait pas, elle pensait rien, et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sur les pavés de la place Sainte-Catherine dansaient les hommes, des femmes en crinoline. Sur les pavés dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il a fait su faire, elle avait laissé faire, il l'avait donc fait tous les deux, et on voudrait que je sois sérieux. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles dansait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sous les lampions de la place Sainte-Justine chantaient les hommes, les femmes en crinoline. Sous les lampions dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il attendait la guerre, elle attendait mon père, ils étaient gays comme le canal, et on voudrait que j'aie le moral. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, tout au temps Bruxelles bruxelles.
Un titre de Jacques Brel que vous connaissez bien, un titre qui est dans l'actualité, puisqu'aujourd'hui, on vous l'a annoncé il y a quelques instants, avec Jacques Baudouin, nous recevons Thierry Demey. Pourquoi ? Eh bien, il a sorti un ouvrage qui est assez remarquable par la présentation, par sa compilation de photos. Léopold II, la marque royale sur Bruxelles, et c'est aux éditions des Guides Badeau.
C'est bien ça.
On a tout dit, hein. Enfin, on a tout dit. Dans le préambule, évidemment.
On va se lancer, en tout cas. Bah, un ouvrage qu'il faut avoir avec soi pour déambuler dans Bruxelles, mais enfin, c'est pas le seul. Mais heureusement, c'est vrai que ça peut servir de guide aussi, bien sûr. Et en même temps, si on se balade avec vous à avenue de Tervuren, on ne se limite pas à l'époque Léopold II, Thierry Demey. On a aussi toutes les informations qu'il faut savoir sur les bâtiments des époques postérieures.
C'est-à-dire que dès le moment où on sort de l'histoire, qui est la trame de cet ouvrage, c'est-à-dire la période de Léopold II. Et dès qu'on va se promener, parce qu'il y a une série de promenades qui sont proposées de découvertes à travers la ville, eh bien, il n'y a aucune raison de privilégier une époque par rapport à d'autres. Et effectivement, on parle à la fois du présent et du passé, de tout ce qu'on voit en réalité.
Oui, et d'obliger le promeneur à avoir les poches pleines.
Oui, ben encore que le format est compact et qu'il a, de ce point de vue-là, été étudié pour. Normalement, ces guides Badeau sont précisément destinés à être emmenés avec soi. Il faut une besace, hein, oui, parce que c'est quand même 900 grammes.
Non, mais on peut se balader avec celui-là. Je veux dire, on n'est pas obligé de prendre tous les autres volumes de la collection et tous les autres guides.
Voilà, absolument.
Alors, parlons un petit peu de Léopold II. C'est quelqu'un qui est de nouveau à l'ordre du jour, si je puis dire, puisqu'il est très contesté pour l'instant, le bon roi Léopold II, et que d'aucuns s'étonnent qu'on ne va pas pas célébré justement son, l'anniversaire de sa disparition, de son
oui, oui, de sa disparition.
Sa disparition. C'est un pragmatique, c'est un homme au fond qui se fiche du tiers et du quart concernant la popularité.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a dit au début de son règne, quelques années d'ailleurs après le début, il n'était plus populaire. Et il a dit, la popularité, je l'ai eue, je ne l'ai plus, il n'en reste rien. Ce n'est même pas de l'écume. C'est pour dire qu'il en avait effectivement un relatif mépris à l'égard de cette chose-là et qu'il n'a rien fait pour se faire aimer. Maintenant, c'est un homme qui avait une stratégie, qui avait une vision politique, qui n'était pas partagée par la plupart de ses contemporains, mais on peut dire que sur le plan à la fois, je dirais, il y avait deux grandes mamelles de la stratégie politique de Léopold II, c'était « il faut à la Belgique une colonie », et c'est une obsession depuis qu'il est jeune duc de Brabant, il a 22 ans, 23 ans, il y pense déjà, il fait des voyages sans arrêt à travers le monde pour saisir l'opportunité. Toutes ces tentatives vont échouer jusqu'au moment où il va rencontrer Stanley et se rendre compte que l'Afrique centrale n'intéresse personne. Et puis, le deuxième sujet qui est essentiel dans la stratégie politique de Léopold II, c'est de donner une place à la Belgique, non seulement en tant que nation coloniale, mais en tant que nation tout court, en ayant des monuments, en embellissant les villes de manière à célébrer cette indépendance, cette richesse de cette petite nation qui, certes, est un petit territoire, mais a beaucoup de génie.
Oui, il faut graver dans la pierre la prospérité nationale.
Exactement.
Ceci dit, c'est vrai que ces projets se sont heurtés à des oppositions multiples, et les projets aussi n'étaient pas très, très, très populaires. Alors, à un moment donné, il a pu bénéficier, grâce au Congo, grâce à l'exploitation du caoutchouc, des moyens pour mener à bien, en tout cas, certains de ces projets. Mais c'est vrai que même du côté des coloniaux, par exemple, on n'y souscrivait pas à ces ambitions-là.
Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. En réalité, dans la politique d'embellissement de Léopold II, il faut distinguer deux époques. L'époque avant, c'est 1895, et l'époque après. Avant 1895, il a comme seul revenu sa fortune personnelle, la liste civile, c'est-à-dire le budget que la nation lui octroie, et le résultat de quelques petits placements. Après 1895, il a les richesses de l'ivoire et du caoutchouc, parce qu'il faut savoir que son entreprise coloniale, il l'a risquée. Et il a gagné parce qu'à un moment donné, on a inventé, c'est aussi bête que ça, on a inventé le pneu à air comprimé. Hein, c'est Dunlop qui l'a fait. Ça a commencé à équiper les premières automobiles et les premiers cycles. Et c'est grâce à ça que Léopold II est devenu très riche. Il y avait englouti l'essentiel de sa fortune. Et c'est clair qu'il aurait pu perdre. Là, il se fait qu'il a joué et qu'il a gagné. C'était d'ailleurs toujours dans son idée. Son idée, c'était qu'une colonie devait être profitable.
Et pour lui, cette colonie, enfin son État plutôt même, hein, puisque c'était son domaine, son État devait participer à l'embellissement de notre pays.
C'était la théorie du juste retour. Hein. Vous vous rappelez de Margaret Thatcher dans les années 80. Eh bien, Léopold, c'est 80 ans plus tôt, « I will my money back ». Autrement dit, j'ai investi au Congo, le Congo doit me rendre l'appareil. C'était pour lui, on ne peut plus naturel.
Enfin, me rendre à mon territoire aussi, il doit l'embellir.
Oui, c'est ça.
C'était pas pour l'enrichir uniquement personnellement.
Effectivement, oui. Dans la mesure où lui, Léopold II, n'était absolument pas préoccupé du tout de son enrichissement personnel, mais du prestige de la nation. Et tout ce qu'il a fait avec son argent et l'argent des autres, il l'a fait évidemment pour le bien de son pays. Ça, c'est au moins quelque chose qu'on ne peut pas lui retirer.
Oui, c'est un visionnaire. Hein, c'est vraiment quelqu'un. Quand on voit d'ailleurs encore aujourd'hui, et peut-être surtout aujourd'hui, on prend véritablement la mesure de son axe de vision qui était vraiment prospectif.
Très prospectif, à tel point qu'effectivement, par rapport à ses contemporains, il apparaît comme fou, mégalomane, hein, avec des idées de grandeur d'un autre âge, alors qu'en réalité, quand on examine en tout cas tous ses travaux d'urbanisme, ou en tout cas tous ceux qu'il a inspirés, eh bien on s'aperçoit aujourd'hui qu'il avait vu juste. Prenons quelques exemples. Bruxelles doit à Léopold II ou à son ami Victor Bem, qui est l'inspecteur voyer chargé de penser l'aménagement des faubourgs, eh bien, Bruxelles lui doit les boulevards de grande ceinture, hein, toute la chaîne des boulevards de grande ceinture qui va dédoubler la petite ceinture à partir de 1880, et lui doit des importantes radiales comme l'avenue de Meis, mais surtout l'avenue de Tervuren, hein, toute l'avenue de Tervuren, les 10 km de l'avenue de Tervuren entre le cinquantenaire et le palais, donc le musée royal d'Afrique centrale, c'est grâce à Léopold II que ce chaînon existe. Et puis alors, l'essentiel des grands parcs bruxellois. On a peine à l'imaginer, mais quand vous regardez le parc de Forêt et le parc d'Uden, le parc Josaphat, le parc de Woluwe, le parc de Laeken, le parc de Kuckelberg. Je veux dire, à tous les coins de la capitale, il y a un parc léopoldien.
Et les arcades du cinquantenaire.
Et les arcades, avec le parc du cinquantenaire, effectivement aussi. Mais les arcades vont cristalliser sur elles la haine, en tout cas des coloniaux, à l'égard de Léopold II. Ils diront, et de manière assez juste et assez légitime, que fait-on de l'argent du Congo ? On construit ce genre de monument parfaitement inutile. Léopold II avait tout fait pour essayer de faire croire que c'est pas lui qui l'avait financé. Il avait fait appel à une série de mécènes fictifs qu'il avait d'ailleurs invités le jour de l'inauguration de ces arcades en 1905.
Oui, il avait quelques couvertures. Hein.
Il avait des couvertures, mais personne n'était dupe, manifestement. Et le seul qu'il semblait l'être, c'était lui-même, hein, puisqu'il prenait la peine de faire cette mise en scène. Donc il fait cette mise en scène. Tout le monde sait que l'argent vient en réalité de sa fortune accumulée au Congo. Et évidemment, les coloniaux qui manquent de tout. L'administration coloniale qui est anémique, eh bien, elle voit ça d'un très très mauvais œil, sachant que le Congo est démuni et qu'avec l'argent du caoutchouc, qu'est-ce qu'on construit ? Des colosses de pierre.
Oui, parce qu'il y a les grands monuments. Bon, il y a les aménagements, les transformations du palais de Bruxelles. Il y a Laeken sur lequel on va revenir. Mais sa préoccupation, c'est pas seulement d'édifier des grands monuments. Bon, vous avez déjà cité les parcs, les boulevards de ceinture. Il y a vraiment une vision urbanistique. Il s'agit de transformer carrément le visage de Bruxelles.
Il s'agit de le transformer à une époque qu'on a peine à imaginer aujourd'hui, où la ville s'étend de toutes parts. Vous avez à la fois une démographie galopante grâce au progrès scientifique, et vous avez un exode rural. Les gens quittent les campagnes, veulent grossir les populations des villes, et cette ville, elle s'accroît de manière anarchique. Les impasses du centre-ville, c'est à l'origine, c'est l'industrialisation qui les amène. C'est-à-dire qu'on a un immeuble en façade à rue, et puis on construit à l'intérieur pour loger, entasser, je dirais, sans égout, sans hygiène, des tas de gens. Et donc se pose la question de savoir comment à la fois assainir le centre-ville pour le rendre plus vivable et développer les faubourgs. Et c'est un problème qui se pose pas seulement à Bruxelles, ça se pose dans toutes les grandes capitales d'Europe, à Paris, à Londres, à Berlin, à Vienne. C'est vraiment un problème général du 19e. Et Léopold II va, grâce à un certain nombre d'hommes remarquables dont il s'entoure, eh bien, il va penser l'extension de la ville des faubourgs d'une manière rationnelle, méthodique, planifiée, telle qu'on la rêverait encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui aussi, on n'arrive pas à faire des plans d'aménagement corrects.
Oui, il y a ce plan général pour l'extension et l'embellissement de l'agglomération bruxelloise de Victor Bem, hein, dont vous avez parlé, qui date de 1866, première version 1863. Mais ce qui est assez incroyable dans ce plan, de ce commissaire voyer, hein, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire de la voirie, hein, qui s'occupe de ça, c'est qu'il y avait une répartition des fonctions qui était prévue pour les divers quartiers de Bruxelles.
Ah, il y avait effectivement une spécialisation des fonctions. Vous aviez des quartiers résidentiels pour riches, des quartiers de logements sociaux pour moins riches. Vous aviez un hippodrome, vous aviez un palais de l'industrie et du commerce. Tout ça était...
Des quartiers industriels.
Et des quartiers industriels autour et alentour du canal. Là, on faisait en fait que confirmer la tendance naturelle, puisque l'industrie s'installait de préférence le long du canal et près de la ceinture ouest. Mais c'était donc effectivement un plan d'aménagement.
Et l'Est, un mélange de commerce et de résidence, par exemple.
Absolument. Commerce et résidence. Et puis alors des quartiers tout neufs au bord des parcs qui sont effectivement des quartiers là aménagés uniquement pour des possédants, des bourgeois ou des nobles.
Mais on va retrouver Thierry Demey dans quelques instants pour ceux qui prendraient l'antenne. Il s'agit d'un bouquin qu'il a sorti, Léopold II, la marque royale sur Bruxelles. Et c'est vraiment très très bien avec notamment des documents, des photos.
Ah, la photo c'est magnifique. Absolument. Hein,
950 illustrations avec un mélange subtil de photos contemporaines et de documents anciens.
Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour aigrit, et puis elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel,
te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare du midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu? Les néons, les léons, les noms du Dieu, sublime décadence, la danse dépense, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti, qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui. Tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, courbattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Paris, je te laisse mon lit.
Et oui, c'est Dick Annegarn avec cette magnifique chanson qui n'a pas pris une ride, c'est Bruxelles. Et nous en parlons de Bruxelles avec Thierry Demey pour ce livre qui s'appelle Léopold II, la marque royale sur Bruxelles.
Un petit mot quand même sur le style d'architecture qu'il affectionnait. Qui sont ces architectes? Et alors ce qu'on peut dire, c'est que l'art nouveau qui surgit quand même à la fin de son règne, c'est pas sa tasse de thé.
C'est même au milieu et effectivement, les styles d'avant-garde, c'est pas du Léopold II. Léopold II est foncièrement un homme conservateur. C'est le paradoxe d'ailleurs, c'est un fin stratège, c'est un homme à projet, à idées, et puis, sur le plan de ses goûts, c'est un conservateur, et c'est quelqu'un qui aime le style Beaux-Arts. Le style Beaux-Arts, c'est une sorte de mélange, je dirais, qui nous vient de France, entre le style néoclassique et le style Louis XV. Prototype du style Beaux-Arts, vous voyez le palais de Bruxelles tel qu'il existe aujourd'hui, avec ses grandes casseroles, ses grandes bonbonnières qui le couvrent. Le grand palais, le petit palais sur les Champs-Élysées à Paris, vous voyez aussi le style, c'est un style relativement lourd et pompier. Certaines casernes à Bruxelles également sont de ce style-là. Et bien voilà le style qu'affectionne Léopold, tout ce qui est monumental, on dirait même colossal.
Oui, comme le portique du palais royal à Bruxelles par exemple.
Absolument.
Et le palais de justice alors que ça,
alors
c'est
le palais sommet. De justice alors qu'il n'y a pas contribué, il n'y a guère contribué puisque Joseph Poulart me pose la première pierre, en fait, au moment où Léopold II monte sur le trône, en 1865. Mais ce monument va, visiblement, il va venir régulièrement sur le chantier pour voir l'évolution, parce que c'est un monument qui fascine Léopold II. Non seulement c'est monumental, c'est colossal, c'est dans une perspective, ça marque le tissu urbain, mais en plus, c'est le symbole de la justice. C'est le respect que l'on doit à la justice. Et donc, Léopold II est convaincu qu'une nation qui construit un tel monument pour la justice ne peut qu'avoir que respect et dévotion pour celle-ci.
Mais il va vouloir d'ailleurs mieux le mettre en perspective et le dégager, mais
et
ce
le
sera
de manière
un échec. Hein.
Total, oui, ouais. C'est-à-dire que à la fois, depuis la rue des Quatre Bras, donc depuis le Goulet Louise pratiquement jusqu'à la Porte de Halle, il voulait supprimer tout le front bâti de manière à dégager effectivement le palais de justice et qu'on puisse l'admirer depuis la petite ceinture. Alors ce sera son œuvre, mais une œuvre ratée.
Pour allécher notre public, parce que votre bouquin c'est fourmi d'une érudition extraordinaire, moi j'ai découvert des petites choses, bon ça peut paraître anecdotique, mais quand même on est toujours heureux de les apprendre. D'abord, on avait prévu de construire un nouveau palais royal au cœur du quartier Léopold, ça l'aurait peut-être sauvé d'ailleurs, ce quartier.
Ça c'est incontestable, mais le palais royal en réalité était trop petit, on a envisagé plusieurs solutions, le quartier Léopold était une option, le quartier Louise en était une autre, et finalement la ville de Bruxelles ne souhaitant pas être séparée de ce palais royal ou ne souhaitant pas devoir annexer des terrains pour pouvoir y construire le palais royal, on a laissé sagement là où il était et on a transformé en fait un palais qui avait déjà été transformé par Guillaume d'Orange, qui avait réuni quatre hôtels particuliers néoclassiques semblables à ceux de la place royale. Eh bien, Léopold II a cassé la façade et on a remonté une nouvelle qui donne ce grand bâtiment au style Beaux-Arts dont je vous parlais tout à l'heure.
Et alors vous, Claude, qui avez visité le palais royal de Laeken, celui-là que Léopold II voulait d'ailleurs, il voulait en faire un véritable palais de la nation, mais vous savez qu'on découvre que dans ce palais, il y avait une église de fer. et dont l'usage aujourd'hui, alors là, ça là, c'est un scoop. Hein. Allez-y Thierry Doumé.
Eh oui, un scoop c'est selon, parce que ceux qui visitent les serres ont tous l'air d'être plus ou moins au courant. En réalité, cette église, qui a servi d'église mais pendant 20 ans, elle était intégrée dans les serres royales d'Henri Maquet, eh bien, et d'Alphonse Balla, puisque ce sont les deux architectes du roi qui ont participé à la construction des serres. Aujourd'hui, c'est la piscine privée de la famille royale et extension. Donc, autrement dit, il y a de l'intérieur, on ne voit plus d'ailleurs que c'est une grande serre, mais quand on remarque sur les documents anciens, cette serre qui servait d'église et qui était capable d'accueillir jusqu'à 600 personnes, c'était assez remarquable.
Et la piscine est toujours opérationnelle ?
Oui, oui, elle est absolument opérationnelle. C'est une piscine chauffée, intérieure, dont doivent profiter, à mon avis, régulièrement tous les membres de la famille royale et leurs invités.
Ah ben j'ignorais, moi.
Vous n'avez pas fait plouf dans cette
piscine. Oui, transformer une église en piscine.
Mais le temps passe vite.
Hein. Oui. Alors, un petit mot, le boulevard Léopold II, par exemple, ça a été un chemin de croix, ça.
Apparemment, effectivement, c'est-à-dire que ça a été très très lent à construire, mais quand on voit les boulevards de grande ceinture, ça commence en 1865, mais ça ne se termine pas. Ouais. Ça se termine pas à la fin du règne de Léopold II, donc... Ouais. Il faut toujours mettre les choses en perspective. Lui, il va lutter toute sa vie d'une manière, avec un entêtement et une ténacité remarquables contre les inerties de tous ordres. Inertie administrative, objection
contre
de
les bourgmestres,
de
par
etc.
exemple Charles Buls, qui lui est attaché à la ville moyenâgeuse.
Hein, ah oui, oui, il y aura effectivement une partie, un bras de fer terrible entre Charles Buls et Léopold II. Léopold II étant partisan de transformer le haut de la ville en mont des arts au mépris de la ville du Moyen-Âge, et Charles Buls militant, lui, pour la conservation des relief historique du Moyen-Âge.
Eh bien voilà, le titre de ce livre, Léopold II, La marque royale sur Bruxelles, signé Thierry Demey aux éditions des Guides Badeau. Merci mille fois d'être venu jusqu'à nous. Alors, Alphonsa vient de débarquer dans ce studio, plus belle que jamais. Pas
oh,
le studio, mais Alphonsa.
Dans Cocktail Curieux, on va vous parler prévention, incendie et donc brûlure, forcément, à l'occasion des fêtes qui arrivent. Les risques se multiplient. On vous donne quelques conseils.
Mais il y a eu des incendies, hein, même au Palais Royal de la Ken. Hein. Sous Léopold II.
Absolument, en 1890, et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a
qui
laissé
mort,
la vie.
Hein. Hein. Oui.
Bon, ben écoutez, que Dieu ait son âme. Bon après-midi à l'écoute de la première. Dans quelques instants, les informations. Et puis, Alphonse avec Cocktail Curieux.
Retrouvez Flashback tous les jours de la semaine entre 13h30 et 14h.
La première.